Quel animal a d'abord quatre jambes le matin, deux jambes à midi et trois jambes le soir? Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans votre podcast, épisode 2.5. Nous explorons toujours le changement des mentalités. Dans notre édition ou épisode précédent, nous avons parlé du rôle de l'intellectuel dans ce travail titanesque. Nous avons parlé ou évoqué ou expliqué comment l'intellectuel a un peu influencé le politique, l'homme politique, la politique, et comment cette opération peut se traduire dans l'économie aussi et dans le social. Nous sommes maintenant dans toujours cette dimension sociale maintenant, où nous explorons un peu plus en détail le processus de changement de mentalité. Comme nous l'avons dit précédemment, beaucoup d'entre nous parlons de ce changement de mentalité, mais nous n'offrons pas au fait de solutions, de paradigme, de plan pour arriver à cette finalité. Évidemment, il n'y a pas une seule solution. Évidemment, nous avons l'esprit humain est complexe et compliqué. Il y a plutôt plusieurs méthodes d'enseignement. Bien que ces théories ont été beaucoup critiquées. Ces théories ont dit que voilà, il y a des personnes qui apprennent plutôt visuellement. Il y en a qui apprennent mécaniquement avec leurs mains. C'est un peu l'être humain en fait est un peu tout ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu plus susceptibles à apprendre parce qu'ils voient, parce qu'ils font. On parle d'intelligence kinétique, on parle d'intelligence visuelle. Mais l'homme est un tout au fait. L'homme est un tout et c'est vrai qu'il y en a qui ont des capacités un peu plus développées que d'autres. Et cela demande à chacun d'entre nous de faire ce qu'on appelle le soul searching, c'est-à-dire cette recherche personnelle pour savoir quels sont nos dons, quels sont nos talents, quelles sont nos affinités. Et c'est ainsi, au fait, qu'on peut comprendre quel est le meilleur système d'apprentissage pour nous. J'ai commencé avec une devinette très célèbre, connue depuis l'Antiquité, qui avait été donnée par, si je ne me trompe pas, Oedipe, l'un des héros grecs, lorsqu'il rencontra le Sphinx. Sphinx que vous connaissez très bien, cet être qui a un corps de lion et une tête d'homme en Égypte, Kemet pour ne pas la citer. Eh bien, Oedipe, dans les récits grecs, rencontre cet animal fabuleux ou ce personnage fabuleux, et le Sphinx lui pose la question. Quel animal a d'abord quatre jambes le matin, deux jambes à midi et trois jambes le soir? Et Oedipe répondra que c'est l'homme, parce que le matin, ça veut dire dans la jeunesse de l'être humain, lorsqu'il est bébé, le bébé marche pas avec quatre jambes. Ensuite, lorsqu'il devient un homme, il marche avec deux jambes. Et ensuite, lorsqu'il devient ou elle devient vieux ou vieille, et bien cette personne marche avec trois jambes, c'est-à-dire une canne. La canne fait office de la troisième jambe. Pourquoi cette énigme, pourquoi ce puzzle? Ce qui m'intéresse ici, c'est le Sphinx. Le Sphinx, en effet, est une statue ou une figure emblématique connue dans le monde entier. Chaque personne à qui on montrerait la photo du Sphinx serait tout de suite interpellée et reconnaîtra cette œuvre architecturale ô combien célèbre et importante. Mais ce qui frappe lorsqu'on regarde le Sphinx, et c'est visible comme le nez au milieu de la figure, c'est justement son nez. Le nez du sphinx est cassé et les théories sont nombreuses pourquoi le sphinx est cassé. Mais du moins, une chose est sûre, les experts se sont penchés là-dessus, la tête du sphinx est une tête évidemment africaine, évidemment, s'il faut utiliser un terme qui est technique au fait aussi dans la recherche, négroïde, sans vouloir froisser les susceptibilités. Donc, le Sphinx a une tête africaine. Et ce qui est intéressant et ou plutôt déplorable aussi, c'est de voir que son nez est cassé. Et le Sphinx n'est pas le seul dans cette situation-là. La majorité ou beaucoup de statues égyptiennes, africaines, ont le nez cassé. Pourquoi? Eh bien, la réponse est simple. C'était tout simplement pour pouvoir cacher les origines africaines de ces anciens bâtisseurs. Car on ne pouvait pas, vous imaginez, à l'époque de l'esclavage ou post-esclavage, reconnaître à cette civilisation-là sa africanité. Il fallait complexer les gens, il fallait justifier le fait qu'il fallait aller dans ces contrées d'Afrique centrale pour aller humaniser ces bandes de sauvages. Et donc, reconnaître qu'ils étaient déjà civilisés était une antithèse par rapport à leur opération de d'esclavagisme et de, surtout de colonisation. Il fallait absolument dénier ces choses pour pouvoir justifier des politiques agressives au niveau de l'économie, au niveau du commerce, avec l'exploitation du caoutchouc en Afrique, des mines d'or et j'en passe. Donc, pourquoi nous intéressons-nous à l'image du Sphinx aujourd'hui? Nous rappelons que nous sommes dans le processus de changement de mentalité. Et le visage du Sphinx ou les nez cassés africains sont en fait l'image ou le matériel didactique que nous allons utiliser aujourd'hui pour peindre l'estime de soi que l'Africain a. Car très souvent, comme le Sphinx, qui est une figure majestueuse, belle, puissante, mais qui a ce nez cassé, et très souvent, beaucoup d'Africains ont ce complexe, ont ce syndrome que moi j'appellerais le syndrome du Sphinx. C'est-à-dire que nous sommes beaux, belles, puissants, créés à l'image de Dieu, tout comme les autres êtres humains de cette planète, mais nous avons ce complexe en nous de sorte que nous n'aimons pas ce que nous voyons dans le miroir. Nous prendrons quelques exemples que bien connus. Michael Jackson, par exemple, qui a fait plusieurs opérations chirurgicales sur son visage, sur son nez. Nous ne sommes pas ici pour critiquer, mais nous sommes juste en train de constater ce qu'il y a dans l'histoire. Et nous savons que c'est lié à sa petite enfance, à ce que son père lui disait, à la manière dont ses cousins l'appelaient. On l'appelait souvent gros nez et il n'aimait pas l'apparence qu'il avait. Lorsqu'on revoit les anciennes images de Michael Jackson, il a un nez épaté, un nez tout à fait africain. Et plus tard, il a eu à faire plusieurs opérations et son nez a eu à prendre des dimensions très très particulières qui n'avaient rien à voir avec ceux de l'Afrique, ou du moins un visage négroïde, s'il faut utiliser ce terme-là. Et Michael Jackson n'a pas été le seul, bien que c'est l'exemple le plus fameux. Nous avons aussi d'autres personnages dans le hip-hop, par exemple, comme Nicki Minaj, qui a reconnu, après avoir nié à plusieurs fois, que oui, c'est son nez, elle a eu à changer son nez. Et à part elle, nous avons aussi, on spécule là-dessus, hein, on spécule là-dessus que Kelly Rowland l'aurait fait, ou peut-être Rihanna. Là, il faudrait revoir. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, beaucoup de célébrités noires ont eu à changer leur nez, leur apparence, parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient dans la glace. Et Michael Jackson, qui est l'une des stars les plus populaires dans l'histoire de l'humanité, si on peut le dire, a été victime de ça. Malgré sa puissance, malgré son charisme, malgré ses talents, il n'aimait pas ce qu'il voyait à cause de ce qu'on lui disait. Et cela a profondément affecté son visage, profondément affecté son image de soi. En général, il est dit que les Noirs, en réalité, les Africains, ont une estime de soi qui serait assez forte. On parle de Black Power, vous savez. C'est vrai qu'il y a eu un travail là-dessus aussi. Black is Beautiful, il y a toutes ces choses qui ont été faites maintenant aussi, ou récemment, avec beaucoup de mouvements, comme le mouvement de négritude, beaucoup de mouvements politiques, qui ont voulu, au fait, changer cette perspective-là sur l'Afrique. Mais le travail sur les humanités classiques n'est pas encore fait. C'est vrai que des personnes comme Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, au niveau de l'Afrique et au niveau des États-Unis, il y a eu des Webb Dubois, il y a eu Ivan Van Sertima, Rachidi Runoko, et j'en passe, et des meilleurs, qui sont ces intellectuels-là qui ont eu à travailler un peu sur les humanités classiques africaines afin de pouvoir créer une impulsion sur ce qu'on appelle une révolution épistémologique, c'est-à-dire qu'au niveau du corpus de la civilisation humaine, reconnaître ce legs africain de l'apparence de la comment dire, créativité africaine dans les temps les plus anciennes, et restaurer l'histoire africaine. Mais évidemment, il y a des organismes comme l'UNESCO qui travaillent aussi là-dessus, car lorsque en 1974 il y a eu le colloque du Caire, ça a été reconnu. Il y avait Cheikh Anta Diop, le professeur Cheikh Anta Diop, qui est un égyptologue sénégalais, qui a démontré, ou au fait, qui a insisté et démontré que les anciens Égyptiens étaient une civilisation noire africaine. Il y en avait d'autres avant lui, mais lui, il a été vraiment celui qui a martelé, qui a donné les assises, les bases les plus importantes de cette démonstration-là avec Théophile Obenga. Il y avait donc eu un colloque au niveau du Caire, où ils ont eu à démontrer, où il y avait plusieurs égyptologues internationaux, et ils ont gagné, et les rapports de ce colloque sont présents, et le rapport dit très bien que La civilisation égyptienne est une civilisation africaine, donc aussi bien dans sa spiritualité, dans sa manière de penser et surtout dans sa langue, car il y a une escroquerie qui voudrait faire croire que la langue est une, on utilise un terme très technique là, kamito-sémitique, hein, pour essayer un peu de noyer le poisson, mais on sait très bien que c'est une langue typiquement africaine et c'est un détail important, même pas un détail, une information importante, car elle va nous guider, car nous aurons beaucoup à faire référence, par exemple, au travail de Jean-Claude Mboli. Jean-Claude Mboli, qui est un ingénieur et un linguiste qui a écrit un livre formidable qui s'intitule Les origines africaines du langage. Et ce titre, en fait, est un peu, comment dire, nous, ne dit pas, ne, 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 ne cache un peu son secret, parce que le livre aurait dû s'intituler, en fait, L'origine africaine du langage mondial. Parce que toutes les langues, en fait, proviennent d'Afrique. C'est vrai qu'il y a eu, après plusieurs millénaires, lorsque les langues africaines se sont créées, c'est-à-dire qu'il y a eu un proto-bantou, et ce proto-bantou a créé d'autres langues que nous connaissons aujourd'hui, ce qui fait que l'ancien égyptien vient de ce proto-bantou-là et est donc une langue africaine. Les langues indo-européennes, oui, ont pu se construire dans leur côté lorsque l'humanité s'était comment dire, répandue dans le monde. Et que par certains phénomènes que nous avons encore du mal à expliquer, comme les phénomènes génétiques et d'adaptation au climat, qui ont fait qu'il y a eu l'homme de ce qu'on appelle l'homme de Grimaldi, qui par ses os est un homme africain, s'est changé en homme de Cro-Magnon, et ensuite les différents phénotypes ont commencé à apparaître, car le phénotype blanc, par exemple, la couleur de la peau blanche, telle qu'on la connaissant, apparaît environ il y a 8500 ans. C'est environ il y a 8500 ans que nous avons ce phénotype-là. Donc, à travers les os, on peut reconnaître l'homme de Cro-Magnon, donc européen, mais il était encore noir. Et ensuite, mais le phénotype blanc tel que nous le connaissons maintenant, il est très récent, c'est-à-dire 8500 ans. Donc, ce qui fait que les différents types d'hommes que nous avons maintenant, ou les différentes, entre guillemets, un mot que je n'aime pas, races, c'est un phénomène qui a pris du temps, parce que pendant 150 000 ans, par exemple, il n'y avait que d'hommes noirs sur la Terre. Donc, ce sont ces différences avec le temps que les différents phénotypes que nous admirons maintenant sont apparus, et nous devons le prendre comme une richesse de l'humanité et non pas comme quelque chose de négatif. Malheureusement, des gens ont créé des idéologies derrière ça afin de diviser pour mieux régner. Ce que nous ne voulons pas faire ici, nous voulons au contraire rassembler. Donc, comment rassembler? C'est justement en connaissant l'unité. Ce qui nous relie tous, ce sont nos langues, surtout en Afrique, ce qui nous relie tous sont nos langues. L'ancien égyptien ou les langues que nous avons maintenant sont des langues qui sont apparentées, qui sont les mêmes, qui sont des langues africaines, différentes des langues indo-européennes qui se sont développées beaucoup, beaucoup plus tard, mais qui ont toutefois emprunté beaucoup de mots dans la langue africaine. Nous y reviendrons parce que c'est vraiment un sujet extrêmement vaste, c'est tout un univers. Si on y plongeait là-dedans, on n'en sortirait pas très vite. Donc nous limitons ces informations simplement pour au fait étayer ce que nous allons dire, parce que nous allons aller dans ces genres de gymnastique intellectuelle et linguiste pour comparer certains mots dans les émissions qui suivront. Donc lorsqu'on a ces bases, lorsqu'on admet déjà ces bases là, cela nous permettra d'aller beaucoup plus rapidement. Donc nous voulons dire que les Africains souvent ont ce problème donc d'estime de soi par rapport à ce qu'ils voient, mais c'est vrai qu'on nous avons dit qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau de la négritude, par exemple avec les Aimé Césaire et tout ça. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus pour changer un peu cet aspect-là de l'histoire africaine. Il y a beaucoup de savants qui ont milité et lutté là-dessus, ce qui fait que maintenant, oui, cette image de soi est beaucoup plus positive maintenant, mais le problème demeure, comme nous l'avons dit. Les célébrités que nous avons citées ont fait ces opérations-là il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas plus de 20 ans ou 30 ans. Donc c'est très récent encore, donc on se rend compte que la mode est encore dominée par certaines industries, certains groupes. Il y a encore une image de la beauté qui est véhiculée, et cela encore agit dans le mental des gens. Voilà pourquoi les gens ne sont pas à l'aise avec leurs cheveux, les gens ne sont pas à l'aise avec leur peau, car en Afrique, la dépigmentation est un sérieux problème. Donc nous voulons parler de ce problème d'estime de soi. C'est vrai que des efforts ont été faits, mais ce n'est pas encore suffisant, parce que l'industrie de l'hydroquinone, qui sert à décolorer la peau, fait encore des ravages, et l'industrie aussi des cheveux est encore un grand problème, d'aussi longtemps que même les mèches, les tresses, même si elles étaient utilisées déjà même de l'Égypte ancienne par les femmes africaines, c'est une économie qui n'est même pas entre les mains des Africains ou des Africaines eux-mêmes. Ce sont les étrangers qui vendent à nos sœurs, à nos mamans des mèches faite qui vient de certains pays dont on connaît, on taira le nom. Donc, tant que nous n'avons pas cette mentalité de pouvoir prendre notre destin en main, d'autres viendront toujours contrôler la nôtre parce que nous n'avons pas la maîtrise sur notre économie, sur nos finances. Et tout part d'où? Tout part de la tête, tout part de la mentalité. Car on peut bien s'efforcer de parler d'économie, mais tant qu'on n'est pas bien dans notre tête, dans notre peau, on aura du mal à faire un business qui va être pérenne, c'est-à-dire être, comment dire, assurer la pérennité sur le, donc sur le long terme. Donc, il faut d'abord un changement de mentalité. Cela passe aussi par la langue. C'est la langue qui nous unifie, c'est la langue qui montre au fait la manière originale dont nous pensons. Car très souvent, nous parlons de changement de mentalité, mais changer vers quoi? Aller vers où? Devons-nous devenir européens? Devons-nous devenir chinois? Avec l'avancée de la Chine qui vient maintenant, on aura peut-être beaucoup d'écoles qui vont commencer à émerger pour que tout le monde parle chinois en Afrique. Devons-nous devenir des Japonais? Devons-nous devenir des Américains, des Français, des Suisses, des Portugais? C'est ça où nous sommes comme tiraillés par plusieurs courants de pensée et nous ne savons pas réellement où aller. Nous avons dit précédemment que ce qui est particulier en ancienne Égypte, c'est qu'il n'y a pas de prison. Alors, nous devons nous poser la question, pourquoi il n'y a pas de prison dans cette civilisation-là? Et comment les anciens Égyptiens changeaient-ils la mentalité? Pourquoi nous allons là? Nous répétons encore que c'est parce que notre langue, lorsqu'on la compare à l'ancienne Égypte, c'est la même langue. Ou pratiquement, presque la même langue. En tout cas, c'est des langues africaines. Et c'est ça qui nous montre que c'est notre berceau civilisationnel. Comme nous l'avons dit, le savoir, c'est ce que l'on retient lorsque l'on a tout oublié. Et il y a une citation que j'avais mal évoquée précédemment dans une émission, celle du Corbusier. Au fait, c'est la tradition, c'est la chaîne ininterrompue de toutes les innovations. J'avais mal prononcé cette citation. Donc, la tradition, c'est la chaîne ininterrompue de toutes les innovations. Donc, il faut absolument innover. Cette ininterruption-là des innovations, c'est ça en fait la tradition. Et très souvent quand on regarde tradition africaine, on regarde seulement le négatif, mais on ne se rend pas compte que la tradition africaine, c'est les pyramides, la tradition africaine, c'est tout ce qui a été aussi fait de grand en Égypte dans des civilisations passées et que nous pouvons utiliser aussi pour construire notre avenir. Donc c'est-à-dire la technologie, que la technologie est intrinsèquement liée à la culture africaine, que la tradition africaine, c'est la technologie. La tradition africaine, c'est les mathématiques, c'est la philosophie, c'est la physique, c'est la chimie. La tradition africaine, il ne faut pas simplement voir de la sorcellerie, de la magie ou je ne sais quoi, qui est obscure, qui n'est pas logique. Mais il faut bien voir la logique formelle, il faut bien voir les mathématiques, la science, la physique et tout cela. Ça fait partie de la tradition africaine. Donc, nous parlions des captifs. Comment ça se fait qu'en ancienne Égypte, il n'y avait pas de prison? Il y avait des captifs, certes, mais lorsqu'ils prenaient ces captifs, qu'en faisaient-ils? Comment ces gens étaient cooptés dans le système égyptien afin qu'ils puissent être égyptianisés et comment continuer à vivre en harmonie avec ceux qui étaient là? Déjà, c'était les personnes les moins belliqueuses. Les plus belliqueuses, j'imagine, ils étaient certainement mises à mort. On ne va pas aussi idéaliser cette société. Ce n'étaient pas des anges qui ne tuaient personne. Ça existait aussi. Mais il y en avait certains captifs qu'on prenait et qui devait être égyptianisé et qui devait travailler pour les services de la du royaume ou du roi ou de la royauté. Alors, quel était ce système-là qui faisait auquel les anciens Égyptiens étaient éduqués, ceux qui étaient locaux et ceux qui étaient captifs et qui étaient amenés dans le pays? Eh bien, il faut d'abord qu'on se dise qu'est-ce qu'il y avait de scientifique dans leur approche. Et pour comparer cela, nous allons nous intéresser aux travaux d'une dame dont nous avons déjà parlé ici, celle qui s'appelle Caroline Leaf, le docteur Caroline Leaf, qui est une neurologue. Et elle définit au fait l'esprit comme ceci, donc le mind, ce qu'on dit en anglais le mind. Elle dit que au fait le mind ou l'esprit, c'est l'unique façon dont vous pensez, ressentez les choses dans vos émotions et choisissez. Je répète, le mind, c'est-à-dire votre esprit, c'est l'unique façon dont vous pensez, dont vous ressentez les choses et dont vous choisissez. Donc il y a la pensée, il y a les sentiments ou l'émotion, il y a le choix. Donc ces trois éléments-là font qui vous êtes, qui font votre mentalité au fait. Donc quand on parle de changement de mentalité, c'est la pensée, c'est l'émotion et c'est le choix. Ce sont les trois éléments qui font partie intégrante de la mentalité. Et quand on veut l'influencer, quand on veut la changer, ce sont ces trois aspects-là qui font qui nous sommes, et ce sont ces trois aspects-là que l'on doit, auxquels on doit s'attaquer, auxquels on doit apporter une attention. Alors, dans l'ancienne Égypte, il y avait aussi trois éléments qui peuvent être liés à ce que le docteur Caroline Leaf dit, pour montrer que ce que ces gens faisaient, les ancêtres égyptiens, africains faisaient, était de la science. C'est-à-dire, Caroline Leaf parle de la pensée, des émotions et du choix. Et bien, dans l'ancienne Égypte, on pensait que l'âme d'une personne avait 9 stages. Caroline Leaf en parle de 3, mais évidemment, ici, elle résume beaucoup, parce que si on veut parler maintenant de concept d'âme ou de psyché, il faut aller interroger des gens comme Carl Jung ou, par exemple, Sigmund Freud, bien que beaucoup de théories de Freud ont été mises de côté, mais il est toujours quelqu'un qui est très étudié lorsqu'on parle de psychologie. Alors, évidemment, nous allons prendre ce qui va avec beaucoup d'attention. Eh bien, mais nous savons aussi que les principes et les certains concepts égyptiens sont très obscurs parce que étudiés par des écoles occidentaux qui ne comprennent pas vraiment la mentalité africaine, et nous avons besoin que beaucoup plus de psychanalystes ou de psychiatres ou de psychologues puissent s'intéresser à ces choses comparées à la mentalité africaine, aux langues africaines, afin que nous puissions avoir les vrais concepts de ces choses. Alors, lorsque nous tapons ces choses sur Internet, nous avons une vision très européocentrée de ces choses. Et nous n'avons pas toujours les bonnes définitions. Donc, Caroline Leaf parlait de la pensée, des émotions et du choix qui faisaient partie des trois éléments de notre mentalité. En Égypte ancienne, eux, l'âme de la personne, c'est-à-dire ce qui est immatériel dans la personne, c'est-à-dire le mind ou tout ce qu'on peut parler de, on peut penser d'esprit, il y avait 9 stages. Mais 3 vont nous intéresser ici parce qu'ils sont liés directement à ce que le docteur disait. Alors, il y a ce qu'on appelle le ka, il y a ce qu'on appelle le ba, il y a ce qu'on appelle le hak. Et il y a d'autres éléments dont nous allons parler plus tard. Alors, donc, les personnes qui étaient formées en Égypte étaient formées par rapport à ces trois aspects-là. C'est ces trois aspects qu'il fallait absolument nourrir chez l'individu afin qu'il devienne un être complet, qu'il devienne ce qu'on appelle un remetu. Un remetu, en fait, c'est l'être humain. Hein? Humain, remetu, muntu, ce sont les termes qu'on utilisait en Égypte ancienne pour pouvoir définir l'humain. Alors, le ka, par exemple, Caroline Leaf parlait de la pensée. Eh bien, le ka, c'est là, c'est cette pensée, cette énergie de la pensée. C'est ce qui est l'évré et ce qui est l'esprit. Lorsqu'on parle de pensée, Caroline Leaf parle de pensée, d'émotion, ce que nous pensons et ce que nous choisissons. En Égypte ancienne, la pensée, ce que l'homme pense, ça se définit par le ka. Et le ka est un hiéroglyphe de 2 bras qui s'élèvent vers le ciel. Donc, c'est la pensée, c'est ce qui est dans la tête. La tête, c'est ce qui est au-dessus, n'est-ce pas, de tous les autres membres du corps. Donc, c'est le siège de la pensée, cette énergie de la pensée qui fait ce que nous sommes, où nous allons. Donc, lorsque nous ne pensons pas comme il faut, eh bien, nous ne sommes pas à même de faire les choix, les bons choix qu'il nous faut dans la vie. Nous sommes ce que nous pensons, nous l'avons déjà dit ici. Ensuite, après le ka, nous avons le ba. Le ba, chez les anciens Égyptiens, c'est le siège des émotions, ce que nous pensons. Et nous pouvons associer au ba ce qu'on appelle aussi le djeb, J et B. Il n'y a pas de consonne en ancienne Égypte, c'est écrit JB, mais nous allons appeler ça djeb. Donc le djeb et le ba peuvent être mis en commun et pour dire que c'est ce qui représente en fait les émotions, l'ensemble des émotions de l'être humain. Et ensuite, après le ba, nous avons ce qu'on appelle le hak, donc AKH. Ba, c'était BA. Maintenant, après, nous avons le AKH, le hak, qui représente au fait la puissance spirituelle supérieure, efficace, lumineuse. Car on est réellement libre que lorsque l'on peut choisir. Donc, le hak marque ce niveau de pensée. Le hak aussi est compris comme un individu qui donne de bons conseils, qui prend les bonnes décisions, qui fait le bien, les bons choix. Un champ, par exemple, qui produit de bonnes récoltes, ou encore une femme qui féconde. Donc, on est dans la production, on est dans ce qui on est dans le choix, au fait. On est dans, pour me répéter, dans la production ici. Donc, lorsqu'on compare ce que Caroline Leaf disait par rapport au mind, comme parce que Caroline Leaf, sa théorie, c'était que, en fait, c'était même démontré, hein, que son cheval de bataille, que le travail intellectuel, ce qu'il y a dans l'esprit, le mind, peut changer notre cerveau par une analyse, par l'étude. Si lorsqu'on utilise nos capacités mentales, lorsqu'on focus, on se concentre sur quelque chose, notre esprit peut être un catalyseur pour changer même notre cerveau. Et elle a eu des expériences, nous avons parlé. Elle a eu des expériences avec des personnes qui avaient eu des AVC par exemple, qui avaient eu des problèmes au niveau du cerveau, des attaques cardiaques où le cerveau a été atteint. Et bien, en travaillant avec des personnes, avec des patients, en leur donnant des jeux intellectuels, en leur donnant de la matière pour développer leur matière grise, on a pu constater qu'il y avait une sorte de réparation au niveau du cerveau et que le cerveau pouvait aller dans le sens de la guérison. Donc, ces choses ne sont pas nouvelles, c'était des choses qui étaient connues déjà dès l'Égypte ancienne, de sorte que lorsque les gens revenaient de la guerre, que ce soit les Égyptiens, les soldats égyptiens, il y avait le soldat ou en Afrique, les soldats devaient passer un temps avec certains guérisseurs, par exemple, ou certains prêtres, afin de pouvoir reprendre un cours de vie normal, car nous savons souvent que lorsque les gens vont en guerre, les soldats, lorsqu'ils reviennent, ils reviennent avec ce qu'on appelle par exemple en anglais les PTSD, ça veut dire des syndromes post-traumatiques ou liés à la guerre. Les gens reviennent souvent complètement traumatisés de ce genre d'expérience. Lorsqu'ils quittent la guerre, lorsqu'ils quittent le service militaire, il y en a qui deviennent traumatisés, il y en a même qui commettent des suicides. Donc, et il était important, les anciens avaient compris que il était important que lorsque quelqu'un revient de la guerre, qu'il devait d'abord avoir un travail psychologique et un travail de suivi afin de ramener cette personne sur le chemin de la guérison. Et cela pouvait aussi être étendu à ceux qui étaient pris comme captifs et qui devaient être intégrés à la société égyptienne ou tout simplement ceux qui devaient être éduqués par les principes de la société égyptienne. Donc on comprenait que le cerveau pouvait être influencé par d'abord la pensée, hein, c'est-à-dire le K par le ba, nos émotions, et ensuite le hak par les décisions que nous prenons. Mais ce qui était plus important ici, c'était le ba. Le ba, pourquoi? Parce que c'est les émotions. Le ba et le jeb. Le jeb, c'était le cœur. Parce que c'est là où il y a le centre des émotions. On en a parlé dernièrement. C'est là où on parle d'intelligence émotionnelle. Parce que les anciens égyptiens, même s'ils savaient que la pensée était dans le cerveau, lorsqu'ils faisaient la momification et qu'ils prenaient les organes importants et qu'ils les mettaient dans des vases pour enterrer les gens, le cerveau, pof, on s'intéressait pas trop au cerveau. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginaient que c'est du cœur que était le siège des émotions, et c'est là où on devait le processus de changement devait avoir lieu. D'où on parle d'intelligence émotionnelle. Alors, ces trois éléments sont les éléments les plus importants, c'est-à-dire, je répète, le K, le ba et le hak. Le K, c'est la pensée, le ba, c'est l'émotion, et le hak, c'est les choix que nous faisons pour changer les choses. Mais au-delà de ces trois éléments, donc le K, le ba et le hak, nous avons aussi d'autres éléments qui participaient au changement de mentalité, comme le REN. Le REN, c'était le nom. REN, ici, c'est R-E-N. C'est-à-dire le nom que la personne devait avoir. Par exemple, vous savez, dans l'histoire comme de Joseph, dans la Bible, lorsqu'il est sorti de, entre guillemets, prison, on lui donne un nouveau nom qui s'appelle Tsanak Paneak. Et lorsqu'on lit Tsanak Paneak à l'envers, parce que les hiéroglyphes aussi peuvent se lire à l'envers, ça nous donne Amenophis, fils d'Apou. Voilà pourquoi on dit que Joseph a été retrouvé, parce qu'on connaît un personnage qui s'appelle Amenophis, fils d'Apou. Mais nous devons reconnaître que tous les éléments du récit ne sont pas passés comme donnés, parce qu'il n'y a pas de prison en Égypte. Lorsqu'on utilise le mot prison là, le mot a probablement été mal traduit, parce qu'il n'y a pas de prison qui a été retrouvée en Égypte. Tout comme quand on parle d'esclavage, ce n'est pas le mot esclavage n'existe pas en Égypte. Il y a une autre forme de, comment dire, j'ai même du mal à utiliser le mot servitude, mais il y a des gens qui ont placé dans des ghettos. Mais le mot l'esclavage n'existe pas en Égypte et les prisons n'existent pas en Égypte. Donc, il y a des termes qui n'ont pas été traduits comme il le faut. Ça, c'est l'analyse sur terrain qui montre ces choses. Donc, le nom du captif pouvait être changé. On va lui donner un nom égyptien pour l'égyptianiser. Et aussi, un autre, je veux dire, fun fact. C'est la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. Et bien, je dirais que lorsque deux personnes s'aimaient, nous devons savoir que les anciens égyptiens avaient chacun un nom. Un nom, plusieurs noms, en fait. Les pharaons avaient plusieurs noms, les gens pouvaient savoir d'autres noms, mais chacun avait un nom caché qu'on ne devait pas révéler à l'autre. Alors, si on aimait quelqu'un, on pouvait révéler ce nom secret-là. Les gens ne voulaient pas révéler ce nom-là parce que si ce nom était connu, puisque c'est le nom qui vous lie à Dieu, ou à Dieu, eh ben, en livrant ce nom-là, quelqu'un pourrait peut-être se livrer à des activités maléfiques contre vous. Donc, on ne devait pas livrer ce nom. Donc, si vous aimez quelqu'un qui vous doit livrer ce nom, c'est que vous avez assez de confiance en cette personne pour livrer votre nom. Donc, quand on avait une bien-aimée ou un bien-aimé, eh bien, on pouvait lui dire comme preuve ultime, ah bon, moi, mon vrai nom caché, c'est celui-là. Donc, c'était un peu ça. Donc, le nom, ça c'est juste une parenthèse. Hein. Donc, le nom, au fait, est celui que l'on doit recevoir, au fait, pour être dans sa plénitude, dans sa pleine identité. Et ça, c'est aussi un grand problème dans la société africaine où la majorité d'entre nous avons des prénoms européanisé, bien que le nom de famille a survécu, mais c'est encore pire dans les sociétés américaines où carrément le nom et les prénoms ont été changés. Beaucoup maintenant reviennent à des prénoms à consonance africaine, mais le nom de famille. Donc c'est un peu le contraire de chez nous. Nous on a des prénoms on a des prénoms étrangers, des noms de famille autochtones. Eux ils prennent maintenant des prénoms africains, mais les noms de famille restent européen. Donc, il y a ce problème d'identité là, car le nom, en fait, renvoie aussi à la puissance, renvoie à l'identité. Avoir un nom est très, très, très précieux, parce que le nom, c'est la chose la plus importante d'une personne. Lorsque quelqu'un prononce votre nom, il y a toutes vos cellules qui sont directement sollicitées, et votre attention est captée. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'attention? Donc les noms, le nom, faire attention au nom que l'on donne, donner un nom à quelqu'un est aussi une marque de puissance. La preuve, le mot nègre, négroïde, sont des noms qui ont pris des connotations négatives et qui sont devenus des insultes aujourd'hui. Et lorsqu'on utilise ces termes contre quelqu'un, c'est offensant, ça détruit intérieurement. Donc nous y reviendrons beaucoup plus tard dans une autre intervention. Ici, c'est juste une petite introduction pour dire que le nom était ce que nous devions restaurer. Le nom avait une importance très, très capitale. Par exemple, le nom de l'Égypte ancienne et le nom du royaume Congo est le même. Par exemple, l'Égypte ancienne s'appelait Tameri. Or, Tameri, c'est-à-dire MR, parce qu'il n'y a pas de voyelle en ancien Égypte, en ancien égyptien. Donc, on écrit T. MR, T ou Ta ou To, ça signifie la terre. MR ou Meri, ça signifie la ou. Or, dans le royaume Congo, c'est-à-dire dans la langue Kikongo, en RDC, hein, là, le Kikongo, la ou, Congo, le nom du Congo avec K, c'est aussi le nom de la ou. Et Congo signifie aussi tout ce qui est relatif à l'union, à l'unification, à l'arc-en-ciel, à l'amour. Et en ancien égyptien, le mot MR, c'est le même mot qu'on utilise pour dire ou, la ou. Et le même mot qu'on utilise pour dire aimer. Ce n'est pas une coïncidence. L'ancienne Égypte, le premier nom de l'ancienne Égypte, lorsque Narmer, dont nous avons abondamment parlé, a réunifié l'Égypte. Donc le premier nom qu'on a donné à l'Égypte unifiée, c'était Tameri. Ce n'était pas Kemet, c'était Tameri. Donc T-M-R. Ta, le T, To, Ta, ça signifie la terre. Et Meri ou Mer, donc M-R, ça signifie la ou. Donc le hiéroglyphe en question, il y avait la ou sur le hiéroglyphe là. Et c'est le même hiéroglyphe qu'on utilise aussi. C'est le même symbole qu'on utilise pour dire Congo. Parce que chez nous, Congo, c'est en même temps la ou, et ça veut dire aussi, c'est tout ce qui est rapport avec aussi l'unification. Congo, Congola, Congolo, ça veut dire aimer, ça veut dire la ou. Et en ancienne Égypte, c'est aussi la même chose. La même chose, c'est aussi idem pour le mot Kemet. Lorsqu'on parle du mot Kemet, d'après, ça c'est Dibomba Rimbaud qui maintenant le démontre. Ça, c'est ce que je viens de dire avant. Je l'ai constaté par moi-même. Maintenant, ce que Dibomba Rimbaud, un chercheur aussi, a découvert, c'est que la graphie du mot Kemet, qui est aussi qu'on traduit par la terre des Noirs ou le pays des Noirs, a en fait 4 ou 5 symboles. Et parmi ces 5 symboles, dans la méthode Kuma qu'il a créée, eh bien, en prononçant l'un des mots, puisque tous ces mots, tous ces idéogrammes-là agissent par homonymie, en prononçant l'un des mots, eh bien, vous pouvez déjà connaître la graphie, le nom de chaque graphie, de toute la graphie. Or, comme il y a le dos du porc épique, et une chouette, et que ces deux mots-là ont la même consonance dans les langues africaines, c'est-à-dire quelque chose comme Ungu, Ungwe, Nkong, Nkong. Il précise que le nom de ce Kemet, on ne doit pas lire simplement phonétiquement et dire Kemet, non, c'est aussi Congo, par rapport à la graphie elle-même. Donc, que ce soit Tameri, que ce soit Kemet, les deux mots signifient Congo. C'est pas simplement pour dire que les peuples ont immigré, et que c'est la même pensée, que c'est le peuple qui est là, de ce royaume-là, et le même qui était là-bas en Égypte, les gens ont immigré où les gens avaient la même pensée philosophique et symbolique. Par exemple, nous avons dit aussi que l'un des rois du royaume Congo s'appelait Nkouvu. Nzinganguvu. Nkouvu, c'est comme le nom de celui qui a créé la grande pyramide, la pyramide de Nkouvu. On dit Khufu ou Khéops, ce sont des noms qui ont été européanisés, mais en réalité c'est Nkouvu. Donc on voit ces rapports-là entre l'Égypte et le royaume Congo, dans l'actuelle RDC que nous connaissons. Donc le nom était quelque chose de très important. Donc nous allons nous arrêter là et nous continuerons avec une prochaine émission pour donner les autres éléments de ce qui faisait les 9 parties de l'âme chez les anciens égyptiens et qui sont toujours des concepts qui sont utilisés dans la psychologie de nos jours. Merci beaucoup. Bye bye.